RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
19h tout pile sur RMC. On est là dans Roten sans flamme. La deuxième heure de Roten sans flamme en mode Euro. Oui, il y a un match, c'est la mi-temps entre la Turquie et la Géorgie. Toujours un but partout. On est en très bonne compagnie. Et vous allez rester avec nous parce que oui, ça se passe bien. Il y a des bons thèmes, des bons débats avec Manu Petit, avec Christophe Dugarry et avec Jean-Louis Tour. On est là encore une heure, Jean-Louis. On va se régaler.
Bah oui, on va lancer la soirée. Le match du Portugal ce soir face à la République tchèque. Cristiano Ronaldo va-t-il réussir un grand euro, un peu comme Manu Petit qui réussit pour l'instant un très grand euro. Je le dis pour ceux qui ont écouté hier le commentaire du match.
Ça commence, c'est un match.
C'était un Manu en très grande forme.
Seul
mec à la radio qui s'envoie trois saucisses à l'antenne.
Ah, t'as vu ?
Et qui s'en fout complètement.
Bah, en même temps, j'ai pas trop le temps de parler, quoi. Donc j'ai le temps de manger.
Ouais, tu te débrouilles quand même.
Du gars aussi. J'ai jamais prendre plus de saucisses.
Je te jure.
Ouais, non, mais c'est... non mais toi tu respectes pas les auditeurs et moi je faisais partie des auditeurs hier. Comment tu peux manger à la en deuxième mi-temps comme
parce
ça et t'entendre manger à l'antenne?
On n'a pas le temps de grailler à cause des accréditations de l'UEFA justement. On pourra en parler d'ailleurs de ça, tu vois.
Bien sûr, ça intéresse tout le monde.
Non mais laisse tomber. On a perdu des heures, on a marché pendant je sais pas combien de kilomètres. C'était un bordel sans nom.
Manu, on a visité Düsseldorf. Mignon Düsseldorf.
Mais je m'en fous de visiter Düsseldorf. Moi je viens pour le match.
Ouais. Bah oui, mais on peut faire un peu de tourisme.
Est-ce qu'on peut parler des commentaires de Duga aussi. Duga, il est rentré dans la compète. Tu t'es bien senti, Duga?
Non, mais après, c'est difficile de se juger, mais peut-être, je sais pas, non, je pense que ça...
Non, bah, je sais pas, bah, ça, vu que tu recommençais...
Après, c'était un match assez moyen, hein, l'Italie, Albanie, là, c'était un peu ennuyeux, pas trop de rythme et tout, mais bon, les Italiens, ils ont fait le job, bon,
après...
comme les Français, tu vois, c'était pas génial, mais... ils ont gagné le premier match. Non, mais je sais pas. Écoute, je sais pas.
Bon, après, du gars à la télé, c'est un du gars tout mou. Hein. Par rapport à celui qu'on connaît à la radio.
Ah, je suis moins.
Il se retient, etc. Ben oui, voilà.
Ouais, ah, mais du gars, en plus, tu me disais en privé que c'est pas facile de commenter tout seul. Pourtant, vous étiez deux.
Ouais, t'es un peu excellent, Xavier.
Non, mais je plaisante. On l'embrasse, Xavier. On l'embrasse.
Oui. Justement, je le remercie parce qu'au moins, il me met dans les meilleures conditions et tout. C'est
vraiment, ça change.
C'est top. Ouais. Exactement, j'ai pas de coup de couteau dans le dos, quoi. Là, je suis tranquille, quoi.
Ouais, c'est ça. Alors, donc, dans cette deuxième heure, Cristiano Ronaldo.
Là, ça balance, hein.
Et puis, on va donner quelques infos sur la crise des droits télé, hein. Parce qu'on va pas se faire avoir par l'euro qui prend la main médiatiquement, hein. On va continuer de vous donner les infos sur ce qui se passe.
L'ami de Jérôme, t'appelles ça une crise, toi?
Qui?
C'est pas une crise.
Vincent
c'est un fiasco total.
C'est l'ami de Jérôme, Vincent Labrune.
Ah bah oui, c'est l'ami des puissants, Jérôme, on le sait.
Ah
quoi,
ça y est, donc maintenant, vu que j'ai pris sa défense une fois, c'est mon ami. Ah d'accord.
Ah mais okay. Tu continues à le défendre alors qu'il se fout de la gueule de tout le monde depuis des mois.
Oui, ben bah, moi j'en veux au président.
La dernière fois, pire que ça, Manu, la dernière fois, on a fait un sujet aussi à peu près pareil.
Oui.
C'était pire, il a attaqué tout le monde, sauf la brûle. Tout le monde il a attaqué.
Et donc, ça veut dire quoi ça, en fait?
Ça
veut dire quoi? Qui me rince derrière?
Ah non, non, Manu.
Ne vous inquiétez pas,
ça, tu murmures aux oreilles des puissants.
Non, je crois que t'as même pas besoin d'être rincé pour être ami des puissants.
Je te jure.
Bon, vous on donnera les infos du jour.
Vous trompez de cible, mais c'est pas grave. Écoutez, voilà, c'est la tête de Turc.
Bah justement, parlant des Turcs, ils ont son où là.
Bah, ils ont un partout.
Bah, ça a repris effectivement entre la Turquie et la Géorgie. Belle transition, Manu. J'ai dit que tu faisais un grand tour. Je me suis pas trompé.
Arnaud Valadon.
Depuis 40 secondes, et Mouldour a failli marquer son doublé. Bien servi sur le côté droit. Et sa reprise a manqué vraiment de puissance. Il était dans la surface de réparation. Un partout pour les Géorgiens qui disputent leur premier match de l'Euro. Avec Willy Sagnol aux commandes, le sélectionneur que l'on a vu. On est à Dortmund et c'est reparti depuis une minute.
Un partout entre les Turcs et les Géorgiens. Bravo Willy, bien sûr. Pour l'instant, là, il réussit un sacré pari.
Là, il est en train de fermer les bouches.
Non, mais là, c'est énorme ce qu'il est en train de faire.
Ceux qui l'ont critiqué après son passage à Bordeaux.
Non, mais
et
toi,
en équipe
premier.
De France Espoir. Ah, non,
bah là, dans les paris, t'arrêtes pas de dire que la Turquie va se balader, va gagner. Excuse-moi, c'est toi qui lui manque de respect.
Excuse-moi. C'est un grand coach, un grand sélectionneur. Ouais. Après, il est rattrapé par le niveau de certains de ses joueurs.
Devant, il y a du lourd. Bon, bref, on continue.
T'as souvent le nez creux dans le football, quand même, Jérôme.
Le nez creux, c'est-à-dire.
Comme Mbappé. En
gros. Ah non, mais t'as une vision, tu vois.
Ah
juste,
non, mais c'est vrai que vous m'avez bien vendu la Géorgie. Oui, c'est vrai. Excusez-moi.
On y va tout de suite.
Ils connaissent pas un joueur et ils sont en train de me dire. Oh, vous avez pas honte, non? Oh, les phénomènes. Allez, 98, c'est quand même incroyable.
Manu, un joueur de la Géorgie, Manu?
Rachkelian.
Du gars, tu sais le prononcer, lui?
Non, bah non, je peux pas. Non.
Ouais. On essaye quand même.
Je suis enroué, je suis malade, j'ai mal à la gorge.
Non, il y aura bien un match.
Micolodze.
Grosse saison avec Nice, hein,
Micholodze. Ouais.
Allez, on y va sur le match de Kanté hier soir.
Je veux que tu viennes avec moi pour m'aider à diriger l'équipe.
J'ai fait mon temps.
On n'est pas sur humain.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire que ma guerre est terminée.
So, attention, la contre-attaque pour les Autrichiens avec Saliba qui passe au travers.
Écolo
à Miller, le bon retour de Kanté. Heureusement qu'il est là.
Cette fois, Rambo. Il y a eu un problème. C'est pour son ami.
Pour ceux qui avaient des doutes sur sa capacité et dans le volume de jeu, il est toujours au même niveau.
Pour qui vous prenez cet homme ? Dieu ? Non, Dieu aurait pitié. Lui, non.
C'est vrai que c'est la première fois. Bon, je m'y attendais pas.
Juste avant, on souligne quand même le retour de Kanté. Ça faisait des années qu'on l'avait pas vu, ce genre de retour.
Désolé de t'avoir entraîné là-dedans.
Mais non.
Il a donc été élu homme du match hier par l'UEFA, N'Golo Kanté, au milieu de terrain. Alors, on s'est tous félicités de son match et on voulait en parler à 19h.
Pas tous. Moi, j'ai un pote qui m'a envoyé un message, je ne sais plus à quelle heure, qui m'a dit « je le trouve un peu léger, Kanté, je le trouve un peu dépassé ».
À début du match, on ne l'avait pas trouvé exceptionnel, nous. Ouais, c'est vrai.
Ouais, la première mi-temps, ouais, attends, un peu compliqué.
J'ai des potes qui suivent le foot, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont dit un peu dépassé Kanté un peu au début. C'est vrai qu'il a pris le rythme. Il a pris le rythme un peu plus après. Ouais.
T'as des potes connaisseurs. Ouais, donc, Jérôme, tu voulais parler de Kanté parce que t'as lu l'équipe ce matin et t'as pas compris les propos de Rudy Garcia. Parce que donc, nos confrères de l'équipe.
Pas la première fois que je comprends pas.
Tu comprends plus rien.
Mais vous allez me traduire alors parce que moi je comprends pas le Rudy Garcia.
À chaque lendemain de match de l'équipe de France, nos confrères de l'équipe donnent la parole à un entraîneur.
Ah oui, on va pas se le taper à tous les matchs quand même.
Peut-être.
Ah, c'est lui à tous les matchs. Ah, d'accord.
Bon, après, non, mais il a des bonnes analyses quand même, Rudy Garcia. Juste là, t'as pas compris sur Kanté. Donc, il explique cela, l'ancien entraîneur de la Roma. Il n'a rien perdu de son abattage. Kanté, il apporte dans l'équilibre général, dans la compensation. Oui. On le voit partout. C'est une excellente nouvelle. Ça montre aussi qu'on peut jouer en Arabie Saoudite et être performant. Mais, il ajoute Garcia, quand un milieu défensif ressort comme lui à ce niveau, c'est qu'on n'a pas été totalement à la hauteur. Alors, venez 32-16 pour parler du match de Kanté.
C'est-à-dire, pas totalement à la hauteur de quoi
je vous relais les propos de Rudy Garcia.
Est-ce que ça veut dire
on n'a pas été totalement à la hauteur?
Est-ce que je peux défendre Rudy Garcia? Après, vous allez m'attaquer. Est-ce que je peux le défendre?
Bien sûr.
Ah, bah oui. Bah
alors, vas-y, si tu le comprends, explique-nous, du gars, déjà.
Ouais, explique-nous.
C'est clair. Il trouve que quand c'est un défenseur ou un milieu défensif qui est le meilleur joueur du match, ça veut dire qu'on a souffert, ça veut dire que l'équipe a été en difficulté. C'est une façon de voir le match. Après, on peut ne pas être d'accord avec ça.
Moi, c'est pas comme ça que je l'ai perçu, du gars.
Sa façon de voir le match. Ah bon, bon, c'est comme ça que je l'ai vu. Donc, je me dis, il a une vision du match qui n'est pas celle des autres. Pourquoi pas? Il a le droit d'avoir un angle qui est différent des autres. Il n'y a rien de scandaleux à dire ce qu'il a dit. Enfin,
on peut ne pas être d'accord,
mais c'est pas scandaleux.
On n'a pas dit que c'était scandaleux.
Du gars, mais je suis d'accord avec toi. Mais est-ce qu'on peut le prendre aussi sur le fait que, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure en antenne, qu'il y a des joueurs qui jouent au Real Madrid, qui ont gagné la Champions League, qui sortent de belles saisons, ces dernières saisons, et qui sont sur le banc de touche. Et quand tu vois Kanté, ça fait deux ans qu'il n'est plus en équipe de France, il joue en Arabie Saoudite, et il revient, il est titulaire d'entrée. C'est plus pour ça que je le prends, tu vois.
Ça montre qu'il n'y a pas trop de concurrence.
Que la concurrence, elle est toujours pas là, quoi, en fait.
Oui. Moi, je pense que vous comprenez bien le Rudy Garcia, tous les deux sont possibles. Et donc, Jérôme, toi, tu ne comprends pas ce raisonnement?
Non, mais je pense que les deux explications de Manu et du gars, je les avais aussi, hein, plus ou moins. Tu vois, mais en fait, je ne comprends pas sa réflexion dans le sens où si j'écoute du gars, toi, tu me dis, donc si c'est un milieu défensif qui est élu homme du match, ça veut dire que c'est un désaveu pour les attaquants. Donc déjà, un milieu défensif, il peut briller, il a le droit de briller, même quand l'équipe offensivement, elle brille. Ça a été le cas plus ou moins de Manu à la Coupe du Monde. Non, mais c'est vrai. Donc ça, c'est la première.
Mais ça montre bien qu'offensivement, on avait des problèmes aussi.
Oui. Il y avait des joueurs plus offensifs que Manu, quand même.
Oui, mais la preuve, on n'a pas marqué.
Et qui ont brillé. Non, mais qui ont brillé.
C'était un peu dur.
À la Coupe du Zidane, même s'il était suspendu, Djorkaeff, tout ça, bon, c'est des mecs qui ont quand même fait une grande compète. Mais bon, peu importe, je ne vais même pas rentrer sur ce sujet-là parce que pour moi, ça, c'est pas explicable. Un latéral gauche, en fait, donc pour voir sa vision des choses, un latéral gauche ou un latéral droit, il ne peut pas être homme du match si l'équipe offensivement s'est bien trouvée. Je trouve ça incroyable de minimiser certains rôles et certains postes dans le football. Mais ça, c'est comme comme ça. À part peut-être le poste d'avant-centre, quand tu mets 3 buts, forcément, c'est difficile pour les autres d'être élu homme du match. Mais une fois que tu as dit ça, moi, Rudy Garcia, quand il me parle d'N'Golo Kanté aussi sur la rencontre et sur le niveau, si c'est, comme tu l'as dit, un désaveu par rapport à la nouvelle génération qui n'a pas saisi l'opportunité.
Personne ne s'est vraiment installé à ce poste-là depuis son départ.
Mais c'est pour ça que Didier Deschamps l'a rappelé, donc il n'y a même pas à se poser la question. Et quand il dit que ça montre aussi qu'en jouant en Arabie Saoudite, on peut être au niveau, oui, moi j'ai envie de le renvoyer à regarder tous les autres équipes et les joueurs qui jouent en Arabie Saoudite, dans quel niveau, à quel niveau ils sont. Ils sont à la rue, la plupart. Mmh. On l'a vu à la Coupe d'Afrique. Mmh. Oui. La Coupe d'Afrique, on l'a noté, tous les joueurs qui ont joué en Arabie Saoudite et qui venaient d'Arabie Saoudite.
Cristiano qui joue ce soir,
ils étaient à la rue. Cristiano, c'est comme N'Golo Kanté. Ouais. Moi, je pense que c'est des mecs qui ont le goût du travail, de l'effort, et qu'ils n'ont pas
l'exigence
besoin.
L'exigence du haut niveau.
Brozovic a eu du mal avec la Croatie.
Plus le fait que N'Golo, il est comme ça, et tant mieux pour lui, c'est ce qui fait sa force. Il a 3 poumons. Il les aura toujours. Même à 40 balais, il les aura toujours. Donc,
il est altruiste.
Donc, à partir de là, où il n'a pas de soucis physiques, on savait, et je le savais, et Jean-Louis, je m'étais même mouillé avant la compétition. Alors, des fois, je dis des conneries, comme le dit Duga, tu vois. Mais des fois, je dis des choses qui se révèlent vraies. Moi, j'ai toujours dit que, dans la tête de Didier Deschamps, quand il rappelle N'Golo Kanté, c'est qu'il y a des manques, comme tu le disais, Manu, des mecs qui ne l'ont pas donné satisfaction dans ce poste de numéro 6, d'accord, et que N'Golo Kanté, il a l'assurance que si physiquement ça va bien, il sera un titulaire indiscutable de cette équipe. Et ça va être le cas, parce que là, d'autant plus entre les 2 matchs de préparation et le match d'hier, tu ne peux plus le sortir.
Et puis il y a un autre aspect, c'est un petit peu le porte-bonheur aussi de Didier Deschamps, puisque ce matin, notre boss à l'aéroport... Oui. Nous a sorti une stat. Alors, est-ce qu'elle est, elle est vraie, non, la stat?
Bien sûr.
Apparemment, N'Golo Kanté n'a jamais perdu un match officiel avec l'équipe de France.
Voilà. Eh oui.
C'est toi, Jean-Louis, qui a dit ça?
Ah non, c'est Karim Nedjari, notre vrai boss.
Ah non, je crois que c'était toi le boss pour ça.
Non, quand même. Alors, on va continuer le débat dans une seconde. Et j'ai des infos à vous donner sur l'infirmerie des Bleus. On était inquiets sur plusieurs joueurs. Je vous donne les infos dans une seconde. Toujours un partout entre la Turquie et la Géorgie, mais Julien Richard nous appelle. Julien Richard, c'est notre spécialiste natation. Et à quelques jours des Jeux, les championnats de France ont leur importance. Il y a la finale du 100 mètres, Julien, sous tes yeux.
Oui, puisque ces championnats de France servent de qualification, de sélection pour les Jeux Olympiques. C'est ici et nulle part ailleurs qu'il faut se qualifier. Et on arrive sur la course reine de la natation, le 100 mètres nage libre, les hommes forts et notamment Maxime Grousset, vice-champion du monde du 100 mètres il y a 2 ans, médaillé de bronze l'an dernier. Maxime Grousset qui sera peut-être l'un des prétendants à la médaille olympique sur ce 100 mètres nage libre. Et pourquoi pas rêver d'or même pour Maxime Grousset qui a été très impressionnant en série ce matin avec son meilleur chrono cette saison. 6e performance mondiale de l'année. C'était le matin au réveil. On va voir ce que ça donne et s'il peut accélérer maintenant sur cette finale. Et puis on va voir aussi ce que ça donne derrière lui si l'un des autres nageurs va réaliser le temps de qualification. C'est 48 secondes et 34 centièmes, le temps exigé par la Fédération Française de Natation. Je baisse la voix pour le départ. Voilà qui est fait. Et Maxime Grousset donc lancé vers la qualification. Alors il n'y a pas trop de suspense, en tout cas normalement sur le chrono. Mais on attend peut-être une grosse performance du français à maintenant 5 grosses semaines des Jeux Olympiques et peut-être le réveil derrière de la concurrence sur le stade français. Allez, passage aux 50 mètres pour Maxime Grousset qui est évidemment en tête, 22 secondes et 64 centimes. C'est rapide, c'est plus rapide que le temps de passage de son record personnel qui est de 47 secondes et 42 centimes. Ça le repasserait très largement dans le peloton de tête mondial de cette distance. Allez, les derniers mètres maintenant pour Maxime Grousset, seul au monde. Il a seul en France. En tout cas, il a une longueur d'avance sur tous ses concurrents. Les derniers mètres, les 5 derniers mètres, il continue de mettre de la puissance, de la vitesse pour Maxime Grousset. Victoire, 47 secondes, 33 centièmes. 47 secondes, 33 centièmes, nouveau record personnel pour Maxime Grousset. Troisième performance mondiale de l'année. Il monte sur la ligne, il montre les muscles, les biceps. Et au passage, il a donné un coup, sans le vouloir, à un concurrent. Derrière, je regarde la deuxième passe, 48 secondes, 14 centièmes pour Fente Damers qui se qualifie également pour les Jeux sur 100 mètres nage libre.
Merci Julien, à très vite au championnat de France donc de natation. Il y a eu une petite alerte sur le but géorgien face à la Turquie, Arnaud Valadon.
La 57e un partout, coup franc à 25 mètres de Salanoglu. C'est frappé très fort, plein axe, et c'est boxé par le gardien géorgien. Les Turcs qui se ruent de nouveau à l'attaque. La 57e un partout.
Avez-vous été étonné par le match de Kanté? Le débat continue dans une seconde avec en plus nos infos sur l'infirmerie des Bleus. À tout de suite dans Rotten sans flamme, spécial Euro.
RMC, 18h-20h, Rotten sans flamme, intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Rotten.
19h17, on est là dans Intégral Euro, Rotten sans flamme, magnifique. Oui, on parle de l'Euro, on parle des matchs, on se régale avec Manu Petit, avec Christophe Dugarry et avec Jean-Louis Tour. On est là jusqu'à 20h, restez bien avec nous, c'est important, restez bien avec nous. On va encore se régaler et on va parler bien sûr aussi de ce Turquie-Géorgie. Toujours un but partout, Jean.
Oui, toujours un but partout et le Portugal également au programme. Est-ce que selon vous, Ronaldo va réussir un grand Euro? On fait une deuxième heure spéciale joueur en Arabie Saoudite puisque là on est sur Kanté. Est-ce que sa performance hier soir face à l'Autriche vous a étonné? Philippe nous rejoint au 32-16, Jérôme.
Salut Philippe.
Oui, salut Jérôme, salut à tous.
Bienvenue Philippe. Bon alors, est-ce que tu as été surpris du niveau d'N'Golo Kanté?
Alors, surpris non, j'espérais le voir à ce niveau. Je suis surtout très heureux pour l'équipe de France parce que c'est une excellente nouvelle en fait. Hier, N'Golo Kanté a fait une première mi-temps bon, moyenne, mais ensuite il est monté en régime. Comme il sait le faire, il a le rythme est revenu et il fait une deuxième mi-temps monstrueuse quoi. Le retour qu'il fait sur l'attaquant autrichien qui part seul au but est juste monstrueux et, ouais. Et il sauve la victoire des Bleus. Donc je suis pas d'accord avec Rudy Garcia. On a moult exemples de joueurs qui jouaient bas sur le terrain et qui ont mené leurs équipes à la victoire. Hein. Et si N'Golo Kanté arrive à retrouver le niveau qu'il avait à Chelsea l'année où il est exceptionnel dans les phases finales de la Ligue des Champions, mais alors, c'est une excellente nouvelle pour nous, un peu moins pour Didier Deschamps qui va se faire des nœuds au cerveau parce qu'il y a Tchouaméni qui revient. Mais moi, un milieu de terrain, si on devait faire N'Golo Kanté et Rabiot à gauche, N'Golo Kanté à droite, ça me va très bien.
C'est non, mais moi, même avec Tchouaméni, il peut jouer. Ce que je veux dire, c'est que ça ne va pas empêcher Tchouaméni. Oui, parce que Tchouaméni, il a une qualité.
Il y a Fofana aussi.
Il a une qualité. Ouais, mais Tchouaméni a une qualité que n'a pas N'Golo Kanté, c'est le jeu long. Le jeu long, la vision, un peu ce qu'avait Paul Pogba, du moins ce qu'a Paul Pogba.
Tchouaméni, il a un truc qui n'a pas Kanté, quoi. C'est son volume de jeu. Quoi.
Oui, non mais
Kanté a un truc que Tchouaméni n'a pas.
Je suis en train de te dire que les deux peuvent jouer ensemble, Manu, c'est pour ça.
Je ne suis pas certain, Jérôme.
Tout à l'heure, on parlait de l'animation offensive qui pouvait être différente. Le fait de jouer avec Tchouaméni et N'Golo Kanté peut aussi libérer Antoine Griezmann. D'accord. Oui. Quand tu joues d'un côté avec un mec à gauche et il fait de plus en plus attention au joueur qui est côté gauche, qui se replace pour éviter au milieu de terrain de venir compenser les...
Je ne suis pas convaincu, Jérôme, sincèrement. Non, je ne suis pas convaincu. Moi, je pense que l'association des N'Golo Kanté au milieu de terrain, il faut des joueurs qui soient du box-to-box, tu vois, des amènent justement...
Donc Rabiot.
Oui, Rabiot, par exemple. Moi, Tchouaméni, je n'ai pas le sentiment qu'il ait progressé au Real Madrid dans ce sens-là. J'ai du mal à savoir si c'est un joueur de sentinelle, un box-to-box, un numéro 8, un numéro 6. Je n'arrive pas à me faire une idée sur lui. Comme Camavinga, c'est pareil. Je n'arrive pas à me faire une idée sur lui.
Moi, Camavinga, je suis assez d'accord avec toi. Je te trouve assez dur avec Tchouaméni. Je ne te dis pas qu'il a toujours été au niveau. Pour moi, il n'est pas du niveau d'un Paul Pogba quand il était au top de sa forme.
Bah, je préfère Pogba ou Rabiot avec Kanté que Tchouaméni ou...
Sauf que moi je pense que les milieux dans l'axe aujourd'hui, tu dois aussi avoir la qualité, la vision du jeu pour en une touche, en deux touches, pouvoir balancer le ballon à droite et à gauche. Et Tchouaméni arrive à le faire, tu vois. Chose que ne fait pas forcément Rabiot dans son style.
Pourtant, il en est capable. Hein.
Oui, mais il ne le fait pas.
Parce que c'est plus un joueur vraiment incisif qui va plus de façon rectiligne. Moi, je trouve que Tchouaméni, c'est plus un joueur qui joue de façon latérale, en fait.
Oui, mais c'est après.
Duga, toi, t'es convaincu qu'il ne bougera pas? Il sera titulaire tout l'Euro?
On a vu Kanté capable de jouer en numéro 8. On l'a vu à Chelsea, il a joué un petit peu plus haut. Ouais. Voilà, donc il peut mettre Tchouaméni en sentinelle, Kanté légèrement à droite avec un triangle et Griezmann légèrement à gauche. Voilà, ouais. Ça va rester sur un 4-3-3. C'est possible, c'est faisable. Ça veut dire qu'il faudrait qu'il se passe de Rabiot. Je ne sais pas ce qui va se passer dans sa tête. Après, il vaut mieux avoir des deux à la tête avec des bons joueurs.
Ouais. Comment ? Je ne suis pas convaincu.
Moi, je pense que Kanté et Rabiot, ça reste tout le temps.
Moi, c'est ce que je pense aussi. Ouais. avec ce qu'ils ont fait hier, ils sont montés en puissance les deux.
Et on s'est posé
beaucoup de questions en première période. Oui. Je ne sais pas si vous avez vu certaines choses à la télé, mais nous, on le voyait sur le terrain. Ils n'arrêtaient pas de se parler parce qu'ils avaient des problèmes de positionnement. Ils arrivaient souvent en retard en première période. Ils étaient souvent dépassés. Ils ont perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain.
Rabiot et
les deux, ils ont perdu beaucoup de ballons au milieu de terrain en première période.
Ils se découvrent aussi.
Oui, c'est pour ça. Ils sont montés en puissance et ça peut s'expliquer aussi.
Ce n'est que le premier match quand même. Bon, voilà, c'était très bien. Il va se passer encore beaucoup de choses. Voilà, l'équipe, on ne va pas retrouver tous les matchs ce même 11. Alors, donc, il va y avoir des changements.
Et puis, Duga et Manu, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais moi, j'avais des gros doutes sur le milieu de terrain et depuis un bon bout de temps parce que je trouve qu'au milieu, on n'est pas au niveau. Et que là, franchement, j'ai été agréablement surpris de cette densité dans le milieu
c'était
de terrain.
C'était mieux que ce qu'on a vu ces derniers mois. Ouais,
j'ai mes infos infirmerie. Donc, on remercie Philippe déjà d'être venu débattre autour de Kanté.
Merci Philou.
À très bientôt.
Et bonne Euro.
Alors, le nez de Mbappé, on en a parlé à 18h, vous pouvez podcaster les dernières infos.
Ah, il y a une belle patate.
A priori, il n'est pas là contre les Pays-Bas, il sera là ensuite, rien de très inquiétant pour l'ensemble de l'Euro. On avait une inquiétude sur Olivier Giroud, Manu, hier soir.
Il se touchait l'adducteur. Il a fait les étirements, justement. Tu sais, quand tu écartes les jambes, tu mets les coudes à l'intérieur pour étirer les adducteurs et il n'arrêtait pas de se toucher l'adducteur en fait.
Légère inflammation de l'adducteur pour Giroud, rien de grave a priori et il pourrait reprendre l'entraînement dès demain. Voilà. Première info, donc
il y a une alerte quand même.
Tu retiens surtout qu'il y a une alerte quand même.
Adducteur, ischio, en fin adducteur, de saison comme ça, c'est ça beaucoup tire. De fatigue. C'est ce qui me paraît logique vu l'âge qu'il a. Dans la réflexion de Didier Deschamps, ça peut aussi
surtout
jouer.
Surtout que dans les matchs amicaux récents, il se plaignait de des ischio.
Griezmann. Ça. Griezmann envoyé sur la balustrade.
Lui, il a mangé hier.
Le visage en sang, le genou en sang, etc.
Ouais, il s'en sort bien même dans le contact avec son genou là.
Alors quand exactement. Torsion du genou gauche sur un contact avec un autre joueur autrichien. Finalement, plus de peur que de mal, nous disent Arthur Perrault et Fabrice Hawkins. Il devrait tenir sa place face aux Pays-Bas. Pas de souci pour Griezmann.
C'est pas un match pour lui. Alors, il y a beaucoup de trop de duels. Il a pas réussi à prendre le ballon face au jeu, à faire jouer sa technique. Tu vois, c'était beaucoup trop de duels. Oh là là, quel but!
Ça fait 2-1 pour les Turcs qui régalent et c'est Arda Güler, le joueur du Real, qui a mis un tir absolument exceptionnel, 30 mètres excentré côté droit, qui est allé trouver la lucarne opposée à la 66e sous la pluie battante de Dortmund et dans un cocon turc dédié entièrement à l'équipe nationale turque avec ses supporters. La Turquie prend les devants. 2-1, magnifique but signé Arda Güler.
Et je disais que c'était le but de l'Euro, le premier, et ben celui-là il est encore plus beau. Oh là 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 là, quelle frappe!
Elle est pure, hein!
Ah, il y a du Roten là-dedans!
Oh là là! Pénible!
C'est fou!
Les gauchers, hein!
Les gauchers! C'est comme le but contre Marichev!
On a quand même un truc en plus, Manu! Hein.
Bah oui!
Ah, ouais. Ah oui?
Donc,
très belle
quelle frappe!
Arda Güler, donc 2-1 pour la Turquie!
Manu avait un truc en plus, toi, on l'a jamais vu!
Je peux te le faire voir tout à l'heure.
Comment tu peux parler comme ça alors que tu m'as commenté, mais c'est incroyable.
Je finis mes infos infirmerie.
T'es devenu
donc
une référence aux commentaires grâce à mes matchs. C'est grave.
Là, aujourd'hui, il y avait entraînement entre les remplaçants et l'équipe réserve de Paderborn. Alerte.
C'est les bons matchs.
Oui, mais attention, à l'issue de ce match, petite alerte pour Eduardo Camavinga. Puisqu'il a longtemps parlé avec le médecin en fin de séance, il a terminé sur le banc, remplacé par Warren Zaïre-Emery, donc à surveiller dans les jours qui viennent pour Camavinga, qui est entré en jeu à la place de Rabiot hier. Voilà pour les infos infirmerie.
Oh, c'est match cacahuète là, le lendemain des... Oh là là.
Tu préférais les matchs avec les A-primes ?
Non, mais en fait...
T'es obligé, Jérôme ?
Non, mais je dis
tu vas pas faire que des entraînements, c'est...
Tu
t'ennuies à force de faire que des entraînements.
Oui, d'accord, mais bon, tu sais... alors toi, tu les as pas joués, ces matchs-là, parce que t'étais un titulaire. Moi, je les ai joués, ces matchs. C'est... à la fois compliqué parce que tu joues contre des mecs qui sont pas forcément très concernés et tu risques aussi la blessure si toi
tu parles des adversaires.
Oui,
au contraire, je trouve qu'à chaque fois ils se disent on joue contre les joueurs de l'équipe de France.
Ouais, bah ça dépend. Là, c'était qui la réserve de
Paderborn?
La réserve.
Ouais, surtout
réserve.
Éviter les blessures, quoi.
C'est mieux parce que nous au Portugal on jouait contre les pompiers. Après, ils nous avaient trouvé un match contre les bouchers aussi portugais. Donc, Jacques Santini se démerdait bien là-dessus.
Non, mais arrêtez, Jacques Santini là.
Non, mais on l'embrasse.
Tout ce que vous lui avez mis vendredi dernier, le pauvre Jaco là.
Ah bon?
Ah ouais.
Moi, j'étais pas là pourtant. Hein.
Bon, vous pouvez podcaster ça si ça vous intéresse. Ronaldo va-t-il réussir à 39 ans un grand euro? Le Portugal entre en lice ce soir, 21h face à la République tchèque. Venez nous donner votre avis dans le ring des supporters de Roten sans flamme. Je vous rappelle qu'il y a 2-1 pour la Turquie face à la Géorgie. À tout de suite.
RMC jusqu'à 20h.
Roten sans flamme. Intégral Euro.
Jean-Louis Tour, Jérôme Roten.
Ah oui, 19h28, on y est à l'Euro, on y est. Il y a plein de buts, il y a des bons matchs. Et on se régale avec Manu Petit, avec Christophe Dugarry, avec Jean-Louis Tour. On est encore là une demi-heure dans Roten sans flamme. Restez bien avec nous jusqu'à 20h et après on vous lance la soirée. Ça s'arrête jamais sur RMC de toute façon, oui. Jean-Louis.
Et puis on garde une place pour l'actu hors Euro. Ce sera à 19h45 donc, avec notamment le feuilleton de la crise des droits télé en Ligue 1. Avant le Portugal, avant Cristiano Ronaldo, on retourne sur donc le match des plus beaux buts de cet Euro, c'est Turquie-Géorgie.
Ils ont failli égaliser là.
Et ça aurait pu être un but absolument magnifique de Gaucho Rajvili qui contrôle à l'entrée de la surface de réparation. Il s'amène le ballon en dribblant de manière magnifique, hein, puisque voilà, il dribble le défenseur turc en contrôlant le ballon, en jonglant, en faisant même un petit jongle. Et ensuite, sa tentative à 8 mètres de la cage turque est allée heurter la transversale. Le montant supérieur, la transversale donc pour les Géorgiens. 20 minutes de la fin, la Turquie qui mène 2-1, mais on se régale quand même.
C'est un bon match, ouais.
Magnifique, ouais. Hein, ce qu'on voit, il y a des gestes magnifiques. 20 minutes encore dans cette rencontre, 2-1 pour la Turquie face à la Géorgie de Willy Sagnol. Le Portugal ce soir entre en lice.
RMC, Roten sans flamme.
Le ring des supporters.
Oui, c'est la dernière grosse nation qui nous reste à voir sur ce début d'Euro. Le Portugal affronte à Leipzig la République tchèque. Ce sera à 21h en intégralité bien sûr sur RMC avec Jeannot Rességuier. Ronaldo, du haut de ses 39 ans, va-t-il réussir un grand Euro? Elder monte sur le ring des supporters de Roten sans flamme.
Bravo Elder. Bravo.
Bonsoir l'équipe, bonsoir à tous.
Salut Eder, ça va? Bravo ça va, pour son titre de champion d'Europe.
En 2016, son but, en finale.
D'accord. Très stressé, mais ça va.
Bon, écoute, alors comment tu sens le match du Portugal et puis principalement le match de Ronaldo? Est-ce que tu y crois, Ronaldo, sur cet Euro?
Alors, bien sûr que j'y crois. Le dernier match contre l'Irlande a été très, très positif. Il nous a mis deux beaux buts. Il est en forme, même mentalement, je le sens vraiment... vraiment bien dans ses baskets, il est souriant, il marque. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que face à l'Irlande, il a proposé aussi du jeu, il redescendait pas mal chercher les ballons, il était dans le rythme, donc c'est vraiment intéressant. Et le doute est de savoir si Martinez va nous mettre un 3-5-1 ou alors un 4-3-3.
Alors 3-5-1, tu joues à 10.
Ouais.
En béton. Oui.
Non, vous 3-5-2.
3-5-2, mais voilà. Moi, j'espère qu'il mettra un 3-5-2 comme face à l'Irlande, mais on verra bien.
Bon, ouais, non, mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est exactement ça. Alors, je n'ai pas assez suivi le Portugal et je te fais confiance là-dessus, mais dans le fait de rayonner avec la sélection, on l'a vu au Qatar, on y était, Jean-Louis, on a vu un Ronaldo qui déjà avait perdu sa place, s'entendait pas forcément avec le sélectionneur, on sentait que c'était la fin. Et là, il a retrouvé la lumière, quoi. Donc c'est exactement ça. Et un Ronaldo qui est heureux, qui a le sourire et qui fonctionne comme un leader d'équipe, automatiquement, c'est très dangereux pour les adversaires. Moi, je reste persuadé qu'il va être au rendez-vous. Ouais, du gars.
Moi, ce que je trouve plutôt rassurant, c'est que j'ai pas senti avec son retour, le match face à l'Irlande, j'ai regardé le match, j'ai senti des joueurs un peu libérés. D'habitude, je les trouvais toujours un peu obligés de lui donner le ballon, tu vois. Je trouvais que c'est devenu un peu systématique et que j'ai l'impression que les joueurs étaient plus dérangés par sa présence.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Là, j'ai pas trouvé que c'était le cas. J'ai l'impression que beaucoup de joueurs, se sont libérés un peu de.
Ah, mais du gars, est-ce que c'est pas lié à son attitude?
Aussi, je pense que son attitude a changé. Je pense qu'il est très heureux de revenir en Europe. Je pense que bon, l'Arabie Saoudite, ça va deux minutes. Là, il est content de revenir en Europe. Je pense que ça joue.
Le changement d'entraîneur aussi, je pense que ça lui a fait du bien. Oui.
Ça joue sur son moral, ça joue sur son, sur son envie de jouer, de proposer quelque chose. C'est certainement sa dernière compétition. Donc voilà. Après, qu'est-ce que ça veut dire une Ronaldo va-t-il faire une grande compétition? Qu'est-ce que ça veut dire?
Marquer
ça
des
veut
buts,
dire
quoi.
Que le Portugal fasse au moins une demi-finale. Bon, ils en sont capables.
Ils sont capables, ouais.
Oui, ils ont un effectif, ils ont un sacré effectif. Ils ont
C'est surtout ça, hein, du gars.
Du championnat d'Europe, quoi.
C'est surtout ça, quand tu regardes l'effectif, quand tu regardes les joueurs incroyablement doués techniquement, qui sont capables de lui distiller des caviars. Lui, il n'attend que ça dans les 30 derniers mètres. Je veux dire, il a toutes les caractéristiques pour pouvoir briller dans cet Euro. Quoi.
Ouais, puis tout a été parfait pour se qualifier à l'Euro. Pour les Portugais, tu sens que la dynamique, elle est bonne. Ah, il va falloir aller les chercher, hein, les Portugais.
Ouais, ils vont pas être faciles à jouer.
Ouais. Je pense que c'est l'équipe à éviter.
Alors, on les attend avec impatience. On a envie de les voir en détail. Hein, pas que Ronaldo, Elder. Jeannot Rességuier est avec nous en direct de Leipzig. Alors, il n'a pas la compo officielle encore. On est à 1h30 du coup d'envoi. Mais tu peux déjà nous donner la tendance du 11. Salut Jeannot.
Salut Jeannot. Oui, bonsoir à tous. 3-4-1-2, je vous entendais en parler avec la présence de Cristiano Ronaldo. C'était le cas contre l'Irlande, contre la Croatie. Sans Cristiano Ronaldo, c'était un 4-2-3-1. Il hésitait beaucoup, Roberto Martinez. Apparemment, on aura cette confirmation ce soir avec Diogo Jota et Cristiano Ronaldo. Derrière, ce serait Bernardo Silva et le milieu de terrain composé de gauche à droite avec les Pistons, Cancelo et Diogo Dalot avec le côté droit. Bruno Paulinho, parce que quand il y a Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes n'est pas très loin. Et derrière, il y a une interrogation par rapport notamment à Danilo. Est-ce qu'il sera titulaire avec Ruben Dias, Pep ou alors Antonio Silva et Diogo Costa dans le but. Donc voilà la tendance des choix de Roberto Martinez pour en avoir discuté il y a à peine un quart d'heure avec des confrères portugais.
Et donc ça veut dire du monde sur le banc. Hein. Il doit y avoir Joao Félix, Léao, Gonzalo Ramos... Ouais.
On attend la confirmation, mais c'est vrai que quand tu regardes la compo de départ, si elle est confirmée et que tu jettes un œil sur le banc des remplaçants, tu peux très très vite placer le Portugal quand même parmi les favoris.
Non, mais c'est vrai que c'est important, et tu l'as dit Jean-Louis, parce qu'il y a l'équipe sur le papier, l'équipe type, il n'y a pas de souci, mais les grandes nations, celles qui sont favoris aujourd'hui de l'Euro, il y a aussi le banc, tu vois, il y a des grands joueurs qui sont sur le banc, qui peuvent faire la différence, on l'a vu, regarde le match des Pays-Bas, avec leur attaque titulaire, le trio devant, ça n'allait pas, il a changé, et c'est les remplaçants qui te font gagner, et je part du principe que le Portugal, ça peut leur arriver aussi et ils ont quand même une artillerie incroyable derrière. Donc les Portugais, ils seront là dans tous les cas.
Et Elder, justement, est-ce que toi, tu aurais fait les mêmes choix sur le 11 que nous a décrit Jeannot, ou est-ce qu'il y a des joueurs du banc que tu aurais titularisé?
Moi, je mettrais Léao dès le début à la place de Diogo Jota. C'est vraiment la seule chose que je ferais. Et en défense, je mettrais Pepe, Ruben Dias et Antonio Silva.
D'accord. Bon, écoute,
Pepe joue encore, c'est fou quand même.
Ouais. Bien sûr.
Mais il est bon en plus, il sort d'une grosse saison.
Oui, bien sûr, il est excellent. Ouais. Il est excellent.
C'est pour ça. Ouais.
Ouais, et puis en plus, ces joueurs-là, c'est certainement. Regarde, on reparle de Ronaldo, mais c'est la dernière compète. En toute logique, ça va être la dernière compète de Ronaldo.
Sans doute, mais bon, on a déjà dit ça il y a un an et demi, on a dit ça il y a trois ans.
Non,
mais
il a dit qu'il voulait faire la Coupe du Monde aux États-Unis, Canada et Mexique.
Ouais, mais bon, après, je veux bien qu'il soit monstrueux et qu'il soit surprenant, mais alors, il aura quoi, 41 ans ?
Bah oui, il a 39.
Ouais. Franchement, j'y crois pas. Joueur offensif à 41 ans, ça serait incroyable. Encore, tu jouerais derrière. Il va pas nous refaire une Roger Milla quand même.
Avec Ronaldo, tout est possible.
Et Roberto Martinez l'a tellement bien pris sous sa coupe. Il a discuté. Le changement de sélectionneur a complètement transformé Cristiano Ronaldo.
Ouais, et puis il doit être malheureux, comme Kylian Mbappé était malheureux au Paris Saint-Germain. Il doit être malheureux en Arabie Saoudite.
Ah oui, peut-être moins malheureux.
Mais il le dit pas.
Il a fait une grosse saison. Il a claqué. Ah oui. Il a été présent, on l'a même vu pleurer lors de la finale de la Coupe. C'est quelqu'un qui est très, on l'a toujours dit, professionnel, appliqué, investi, mais c'est un compétiteur. Quoi. Et même quand il perd la finale de la Coupe d'Arabie Saoudite, il est en larmes.
Elder, merci d'être venu au 32-16. Jeannot, merci également.
Merci, Jeannot. Bravo 20 pour ton intervention, Jeannot.
L'after live, son intervention excellente. Et le match, d'hier, je vous invite à vous faire le replay. Duo Rességuier petit, franchement.
Surtout Jeannot.
Les deux. Hein. Jeannot, il a pas mangé de saucisse en 30 ans.
Mais c'est ça qui est bien.
Il y a vraiment une belle amitié.
J'étais jaloux parce qu'en fait, moi, je les ai pas mangés les saucisses au moment du match. Moi, j'ai mangé tranquillement.
Non, mais Jeannot, parce que toi, t'arrives la veille au stade à chaque fois. T'arrives 10 heures avant.
Jeannot, tu sais, c'est la première réflexion que je lui ai faite, c'est celle-là. Déjà, respecte l'auditeur parce que là, il nous a pas respecté hier, Manu, à la deuxième mi-temps.
On n'a pas eu le temps.
Et la deuxième fois, la deuxième réflexion que je lui ai faite, je lui ai dit, tu peux pas faire ça devant Jeannot parce que j'imagine que Jeannot avait la bave. Parce qu'il ne pouvait pas manger les pierres,
ses saucisses. Non, mais par contre, tu oublies de dire quand même que toi, tu as été un grand spécialiste pendant très longtemps avec RMC Sport à la télé, des bonbons au chocolat, tu sais, avec la petite cacahuète.
Voilà, donc voilà.
Tu te rappelles de celle-là ?
Oui, tu mangeais tout.
Ça, c'était quelque chose que souvent, tu avais sur le bureau de commentateur, le bureau de commentateur.
Et c'est la super
ça, j'ai envie d'en parler.
Il donne des leçons.
Tu n'as jamais goûté les saucisses en Allemagne, elles sont juste.
Merci, Jeannot, à tout à l'heure. On y va la semaine prochaine.
Revenons sur Turquie, Géorgie, Arnaud Valadon.
On fait une bonne saucisse. Un partout, on joue depuis
2-1 pour la Turquie.
2-1, pardon. 2-1, on joue la 79e parce qu'il y a des changements. Il y a Yazid Che, le Lillois qui va s'en aller, qui rentre à la place d'Arda Güler, le joueur du Real, futur coéquipier de Kylian Mbappé. Et puis, petit événement, ça va faire plaisir à Duga. C'est David Ashvili qui est rentré du côté de la Géorgie, l'attaquant des Girondins. 8 buts cette saison en Ligue 2. Les Turcs, voilà, qui dominent encore cette deuxième mi-temps. 11 minutes encore à jouer. 2-1 en faveur des Turcs.
Merci Arnaud.
Merci Arnaud.
Donc tous les soirs vers 19h40, on donnera les infos hors euro. Hein, si on a bien entendu. Et là, en ce moment, donc, c'est la crise des droits télé. Manu, écoute, ça va te plaire.
Oui, vas-y.
Vincent Labrune a pris la parole.
Moi, je parle pas. Alors, mon pote, il a pris la parole.
Mon pote,
ton pote, en plus, tu l'appelles mon pote.
20-20, il a dit quoi, 20-20 ?
En pleine crise, donc, des droits télé. Il s'est exprimé dans Le Monde.
Écoute,
attends qu'il vienne sur RMC. Bon,
il va pas parler dans l'équipe.
Pas pour tout de suite. Hein. Bon, parfois il y a une interview dans l'équipe qui tombe de vrai. Vincent Labrune. Mais là, en ce moment, cette période de crise. Non, donc,
c'est mon poteau, il va venir sur RMC.
Il continue de défendre son projet de nouvelle chaîne, le fameux plan B. Et surtout, il parle des relations avec Canal. Et Vincent Labrune dit jusqu'à présent, ni Monsieur Saada ni Monsieur Bolloré n'ont jamais voulu négocier ni même discuter avec nous. Ils ont dit ce qu'ils allaient faire et ils ont fait ce qu'ils avaient dit. Pour autant, dit Vincent Labrune, il faudra bien finir par trouver un moyen de renouer le dialogue d'ici à la fin du mois. Il serait irresponsable de prendre une décision sur nos droits audiovisuels sans avoir évalué les possibilités qui existent avec Canal+, s'il y en a.
Ça me paraît.
Pour des jambons.
Mais grave.
C'est qu'il ne connaissait pas les possibilités de Canal. Canal l'a dit depuis le début. Les choses sont claires, c'est tout ça, sauf que ça ne lui plaît pas. C'est tout.
Ben oui, et puis surtout, son fameux plan B, la fameuse nouvelle chaîne, si c'était si important, pourquoi il continuerait les appels du pied à Canal
Il a raison là-dessus. Une négo des droits doit passer par au moins une discussion avec Canal.
Qu'est-ce que tu racontes ? Tu n'y crois même pas.
Non, mais sans déconner.
Donc, mais Vince.
Des fois, il vaut mieux être sourd. Hein.
De quoi ?
Que n'entendre pas des conneries pareilles, quoi.
Bah, non, mais sérieusement. Aussi.
Oui, je te jure.
Mais sérieusement, sans blaguer, Jérôme.
Sérieusement, vas-y, dis-le fond de ton cœur, Jérôme. Il se fout pas de la gueule du monde, ton pote ?
Qui ? Mon poteau ?
Monsieur Labrune.
Non, mais c'est jour et nuit qu'il est sur les droits. Il est dans la mouise parce que les présidents l'ont mis.
Il y a 6 mois, vous allez voir ce que vous allez voir.
Les présidents l'ont mis.
Ils sont en train de faire la cour à Canal+.
Oui, mais à la faute à qui ? La
ils l'ont chié sur la gueule pendant des années.
C'est les présidents, mais moi j'attends de voir les présidents.
C'est Canal+ qui a aidé à développer le football français, non ? Qui les a aidés à développer tous les clubs professionnels, non ?
Demande à Jean-Michel Aulas.
Mais comment ils les ont traités il y a quelques années ? Et là aujourd'hui, ils les mettent devant
Jean-Michel
Aulas.
Jean-Michel Aulas.
Non mais sérieusement, à la limite,
il aurait pu commencer son speech à présenter ses excuses au groupe Canal+, quoi. Je sais pas, moi.
Oui, parce que Jean-Michel Aulas.
Mais même tout le football français, quoi. Présentez vos excuses à Canal+, quoi.
Je suis d'accord avec toi. Tout le football français. Mais pourquoi juste une personne, Vincent Labrune ?
Ils vous ont toujours financé, soutenu, ils vous ont aidé à vous développer. C'est comme ça que vous les remerciez. Maintenant, vous les mettez en demeure. Non, mais sérieusement.
Surtout qu'il y a à deux reprises, le foot français a tourné le dos à Canal. C'est toujours important de le rappeler. La première fois, pour donner les droits à Mediapro, c'était le fameux milliard de Didier Quillot à l'époque qui était directeur général. Et ensuite, quand Canal a demandé à renégocier les deux matchs qu'ils avaient par rapport à ceux d'Amazon, où ils payaient beaucoup trop cher pour un nombre de matchs limité. Et là, Vincent Labrune, à ce moment-là, a refusé de négocier.
Non, mais blague à part, là, maintenant, sans faire du second degré, c'est quand même problématique. Dire qu'on arrive fin juin. On ne sait pas encore, dans un mois et demi, ça reprend, tu ne sais pas.
Alors, il en a dit plus sur son plan B, sa fameuse chaîne. Donc,
ils n'auront pas le choix, ils ne vont pas avoir le choix.
Avec 2 millions d'abonnés, dit-il, qui est une projection très prudente, payant 20 euros par mois pendant 10 mois, on est déjà à 400 millions, dit-il.
Comment je paye pour Canal pour avoir tous les droits sportifs,
Manu. 400 millions, voilà. Et il dit, ça pourrait même rapporter jusqu'à 700 millions en moyenne par an, etc. Sauf que, attends, quand il dit... quand il dit voilà, quand il dit ça peut rapporter 400 millions, ça a rien à voir avec les chiffres qui sont avancés là, mais puisque oui. les chiffres avancés jusqu'à maintenant, ceux auxquels on est habitué, ils vont direct dans la poche des clubs.
Mais oui.
Là, il faut
mais
retirer
CVC, tu dois pas leur
CVC
ouais.
et surtout les coûts de production, comme a dit Dugas. Si tu crées ta chaîne, il faut payer les gens, il faut payer les studios et il faut produire les matchs. Donc, tu n'auras jamais 400 millions dans les caisses des clubs.
Si la rentabilité baisse, ça veut dire que la part de CVC augmente également, non ?
Aussi, ça c'est si... alors, avec CVC, en théorie, c'est ça. Il se peut qu'ils prennent la parole face au président en fin de semaine pour peut-être reporter, revoir les accords et faire un geste vers le football français. Bon, on n'en est pas là, c'est sûr. Mais là où tu as raison, Manu, c'est que CVC, ils ont un minimum à atteindre. Et si le montant des droits est plus bas,
moi,
le pourcentage qui leur revient est plus important.
Tous les salariés des clubs professionnels, en fait.
Ouais, c'est
je
ça,
pense
c'est
à eux,
ça,
en fait.
Manu. Non, parce que là, tu as raison. Parce que là, on parle des clubs de Ligue 1, des gros clubs de Ligue 1 qui aujourd'hui... Ça, mais déjà, pense aux petits.
Je ne pense pas aux joueurs, parce qu'ils retrouveront un point de chute si jamais
encore,
il y a une catastrophe.
Sais pas,
mais les salariés derrière,
pas,
c'est des milliers de salariés qui vont se retrouver
Manu, même les joueurs. Même les joueurs, je suis désolé. Les joueurs, aujourd'hui... ils ont un certain niveau de salaire avec les droits qui baissent
tu
comme ça.
Qu'ils vont leur demander de faire des efforts.
Ah, mais ils ne vont pas avoir le choix de toute façon. Sinon, tu mets la clé sous la porte et tu fermes la boutique. Donc non, c'est quand même problématique pour notre football en étant un petit peu plus sérieux. Je te le dis, je comprends pas l'attitude de tout le monde, des présidents, de Vincent Labrune, de la Ligue, qui nous avait dit oui, ça va se faire là dans quelques temps, et puis après ils reportent. Ça devait se faire au mois de
puis
mai.
La DNCG, elle dit quoi là, parce que la présentation des budgets des clubs
alors,
professionnels.
Là-dessus, Manu, Pierre-Yves Leroux, notre correspondant dans l'Ouest, a fait une petite enquête à Nantes aujourd'hui. Donc au club, on lui dit c'est calme plat, ça ne bouge pas sur le mercato, il n'y a pas d'offre, pas de demande, parce que il y a donc cette incertitude sur les droits télé. Nantes a présenté un budget de 70 millions d'euros, mais en sachant bien que sur ce budget, les 26 millions d'euros qui venaient des droits télé de l'année précédente seront probablement pas atteints. Et donc du coup, il fallait faire comme si c'était une ligne à zéro dans le budget. Et malgré ça, la masse salariale est quand même encadrée par la DNCG depuis fin mai. Donc en gros, c'est la galère pour le FC Nantes et la situation est pas prête de s'arranger, donc
ça serait quand même une situation ubuesque si la France gagne le championnat d'Europe et qu'on se retrouve avec un championnat qui trouve aucun opérateur.
Oui c'est vrai, et du gars chaque jour on s'enfonce un peu plus dans cette crise.
Moi je me suis exprimé déjà plusieurs fois sur ça. Voilà, il va y avoir de la casse, c'est certain. Mais voilà, après, il va falloir changer de modèle économique, il va falloir changer de façon de voir le football, de consommer le football. Voilà, un coup, c'est Nicolin qui va de sa petite phrase contre Canal. Un coup, c'est la Brune. Bon, écoute, qu'est-ce que je te dis, ils ont le retour de manivelle. Voilà, de ce qu'ils ont fait, ils se sont mal comportés, ils ont été d'une arrogance. Alors je parle à la Ligue au sens général, parce que la Ligue a eu plusieurs présidents différents. La Ligue a eu une arrogance, a été d'une arrogance rare vis-à-vis de Canal, et aujourd'hui c'est en train de le payer cher. Moi ça ne me dérange pas que sincèrement, il y a trop d'argent depuis bien longtemps, et comme je l'ai toujours dit, plus tu es riche, plus tu fais des conneries. Voilà, et plus tu dépenses mal. Là, il va falloir trouver des idées, il va falloir réinventer un modèle économique, il va falloir réinventer un football. Voilà, et moi, c'est pas fait pour me déplaire. Voilà, j'en ai marre de voir des joueurs surpayés et qui m'ennuient match après match. Voilà, donc moi, ça me pose aucun problème. Voilà, j'ai pas de.
Mais les salariés derrière Dug, c'est ça.
Voilà, je suis plus d'accord avec toi, Manu. C'est vrai pour les salariés, pour les gens qui font vivre ces clubs-là. Voilà, ça, c'est
dramatique.
Il faut avoir de la classe, il faut s'y préparer. Ça, c'est certain, mais à force de mal travailler, mais écoute, ce n'est qu'une juste récompense des choses. Voilà, là où quand il y a eu des millions et des millions qui ont été déversés par les chaînes télé, où il aurait fallu investir, où il aurait fallu se restructurer, où il aurait fallu penser différemment le football, eh bien, personne n'a osé le faire. Ils se sont fait la guerre. Les présidents se détestent entre eux.
Tu l'as vu pendant la pandémie. Pendant la pandémie, on l'a vu.
Voilà, qu'ils auraient dû mettre un salarié cap, qu'ils auraient dû prévoir et anticiper tout ça. Eux, ils se sont dit, à partir du moment où les autres pays reçoivent des centaines et des centaines de millions, nous, on est capable de faire la même chose. Mais tu te rends compte qu'avec les joueurs qui ont eu en Ligue 1 ces dernières années, je pense à Messi, je pense à Mbappé, je pense à Neymar, ils n'ont pas réussi à augmenter les droits télé. Il n'y a pas la clientèle en France, il n'y a pas le, le public en France pour pouvoir toucher 800, 900, 1 milliard. Ce n'est pas possible. Beaucoup de diffuseurs ont essayé, tous ont essayé.
Oui, oui.
Orange, Mediapro, Amazon,
Ils se sont tous cassés
la figure. Et tu as un mec qui arrive à la Ligue, président, qui arrive à la gueule enfarinée et qui te dit, moi je veux 800 millions. Mais tu vas avoir 800 millions de coups de pied au cul pour
Je veux 1 milliard, après, il a dit, après, après 800.
Alors voilà pour les droits télé. J'ai des infos mercato à vous donner, notamment une bonne nouvelle pour les supporters de l'OM, mais un nouveau point sur Turquie. Géorgie, on est dans les dernières minutes du temps réglementaire. Arnaud Valadon.
Il en reste deux dans ce temps réglementaire. 2-1 pour la Turquie face à la Géorgie. Les Turcs étaient à deux doigts de faire le break sur un but. C'était une connexion 100% lilloise, puisque Zeki Celik, l'ancien Lillois aujourd'hui à la Roma, est rentré. Petit centre dans la surface de réparation et la tête de Yazici a été déviée en corner par le gardien géorgien. 2-1 pour les Turcs, 1 minute 30 avant la fin du temps réglementaire.
Et donc là, il y a corner pour la Géorgie ?
Et là, non, il y a une coup franc pour la Géorgie. Le long de la ligne de touche, nouvelle séquence de changement. On ne va pas le frapper tout de suite. Mais c'est un petit peu dur pour les Géorgiens. Et Kvaratskhelia, plutôt décevant quand même sur ce premier match de poule.
Alors, on va revenir vers toi pour le coup franc. Arnaud, on rate rien de ces dernières secondes. Hein, tous les matchs sur RMC en intégralité. On y va.
Justement, c'est Kvaratskhelia qui va botter ce coup franc. Légèrement décalé sur la droite à 35 mètres. Au deuxième poteau, ça va être renvoyé par les Turcs. C'est même touché par un Géorgien. Donc, ce sera une touche turque, a priori, pour l'arbitre argentin. C'est une petite particularité dans les Géorgiennes. Cette touche à venir à hauteur de la surface de réparation. La 89e, 2-1 pour la Turquie.
Merci Arnaud. Alors, les infos mercato. Sachez que l'OM va donc toucher 20 millions d'euros dans cette période compliquée. C'est une excellente nouvelle. Pour le transfert définitif de Vitinha au Genoa, 16 millions vont tomber, plus 4 de bonus quasi automatiques pour lui.
Ils l'ont acheté combien déjà ? 35, non ?
Ouais. Ils l'ont acheté.
Ouais, c'était ça.
35 plus des bonus. Ouais, ça montait un peu.
Donc il perd de l'argent.
Il a fait une belle saison, Vitinha, ou quoi ?
Ah, il a mis 2 buts. Ouais. Avec le Genoa. Ouais, c'est en 9 matchs.
C'est une belle vente, hein, pour un match.
Je trouve que c'est une belle vente, ouais.
Très belle vente. Ouais.
Même si. Alors c'était 25 millions plus 7 de bonus. L'arrivée de Vitinha, 32 en gros. Donc, à l'arrivée, tu perds de l'argent, mais t'aurais pu en perdre beaucoup plus. vu le joueur. Sachez aussi que Ethan Mbappé a annoncé son départ du PSG.
Au Madrid ? Non.
Non, il va à Lille.
À Lille ?
Des taquins. Enfin, il ne l'a pas dit dans son communiqué, hein, mais c'est les infos qu'on a et c'est celles qu'on vous donne depuis un moment. A priori, ça va être à Lille. Mais voilà, il remercie le PSG dans un long message sur les réseaux sociaux.
C'est quand même bizarre qu'il s'en aille en même temps que son frère s'en va.
Il organise pas un barbecue avec le CUP ? Non, je sais pas, peut-être qu'il peut aller manger une merguez comme son frère.
Peut-être, Jérôme, peut-être. Et donc, tu dis c'est bizarre, Manu ?
Je sais pas. Moi,
il était là parce que son frère était là ? C'est ça que tu veux dire ?
La question que je me pose, c'est est-ce qu'il a le niveau pour continuer au Paris Saint-Germain ou est-ce que c'est une coïncidence parce que son frère est parti aussi et on veut plus voir de Mbappé
non,
à Paris ?
De toute façon, il faut être très clair. Je dis pas que c'est un mauvais joueur, au contraire, je pense que c'est un joueur en devenir, mais c'est un joueur de Ligue 2 pour l'instant. Et encore, et donc il a joué au PSG parce qu'il s'appelait Mbappé.
Ouais, mais je veux dire, ils ne se sont pas rendus compte il y a deux mois que c'était un joueur de Ligue 2 pour l'instant.
Non, mais bon, ça, le fait de s'appeler Mbappé, ça l'a propulsé.
Voilà, c'est ce que je te dis. Ouais.
J'ai encore des infos mercato à vous donner. Donc, Sergio Ramos quitte le FC Séville. Il arrête pas sa carrière.
Il va en Arabie Saoudite aussi.
Il continue. Bon, on ne sait pas encore, mais en tout cas, il continue. Et puis alors, il s'est passé un très gros truc en football féminin.
Ah.
C'est une info RMC Sport d'Anthony Reich.
Mais on a dit qu'on le faisait dans Roten s'en fout.
Non, mais là quand même, c'est un gros truc. Tabitha Shawinga, qui était la meilleure joueuse de la saison de D1 Arkema. Jérôme,
ah oui,
sais que tu surveilles.
Ah oui, je l'ai vu jouer.
Phénomène
au parc,
de la D1.
Là, franchement, elle va à 2000 à l'heure, c'est incroyable.
Donc elle était. Elle était prêtée au PSG. Ça faisait des semaines qu'ils négociaient pour la transférer définitivement. Bah, elle va à Lyon.
Mais non.
Ben oui, tu te rends compte ? Voilà, donc ça va être officiel dans les jours qui viennent, mais voilà, donc gros coup pour l'Olympique Lyonnais en football féminin.
Le PSG, ça va pas là, ils perdent la meilleure joueuse, ils perdent leur entraîneur, parce que l'entraîneur aussi.
Ils perdent le meilleur joueur.
Il s'en va. Qui ?
Ils perdent leur meilleur joueur aussi.
Non, mais là, on parle du foot féminin.
Non, mais je veux dire...
Chez les filles et chez les garçons. Écoute, voilà, c'est comme crise. Ça. On retourne sur Turquie-Géorgie, les dernières minutes, le temps additionnel. La Géorgie de Willy Sagnol qui pousse, Arnaud Valadon.
Willy Sagnol qui n'est pas content sur le banc de touche. Il a fait les changements. 4 minutes encore à jouer dans le temps additionnel. 2-1 pour la Turquie face à la Géorgie parce qu'il y a beaucoup de précipitations. Ils sont aussi que les Turcs, défensivement, ce n'est pas forcément les meilleures garanties qui ont été présentées. Offensivement, c'est quand même autre chose. Ça, c'est sûr, avec deux buts splendides et les Géorgiens qui essayent de pousser, mais c'est un petit peu compliqué à l'image là avec David Tachvili. Ils essayent d'égaliser, eux qui disputent leur premier Euro. 3 minutes 30 encore à jouer dans le temps additionnel. 2 buts 1 pour la Turquie, peut-être avec ce ballon sur le côté avec Gvichak Varadskelia justement qui peut aller essayer de provoquer, rentrer dans la surface de réparation. Finalement il va centrer avec une reprise à venir et Miko Tadzero, oh, ils se sont mal compris les deux Géorgiens entre Khochorashvili et Miko Tadze, puisqu'il fallait laisser le ballon à un des deux et ils sont un peu télescopés, ce qui fait que le tir est complètement passé à côté. Ils vont s'en vouloir vraiment, les Géorgiens.
Ah ouais, ils en ont eu des occasions.
Ah, celle-là elle est belle.
Ah ouais. Et alors Jérôme, qu'est-ce que t'as pensé du match de Kvaratskhelia?
Bon, un peu absent. Hein.
C'est lui qui provoque.
Hein, ouais. Bah, il est toujours dans la provocation. Moi, ce joueur-là, je trouve qu'il joue beaucoup pour sa gueule. Même à Naples et tout ça. Et vu le prix du transfert qui a annoncé.
À Paris, qui est possible ce transfert. On sait qu'il est sur les tablettes de Luis Campos. On parle de plus de 100 millions d'euros.
Ouais, écoute.
100 millions d'euros?
Ouais, bah, je trouve que là, c'est du grand n'importe quoi.
100 millions.
Sérieux? Ouais, non, c'est ce qu'ils disent. Non, mais même plus négocie, que, hein. Mais même plus quoi, que ça. Je crois que c'est 120.
120 millions d'euros.
Ouais, non. Bah, écoute, moi.
Non, mais il marche sur la tête dans ce milieu. C'est.
Après, c'est pas fait encore. Hein. Ne crions pas avant d'avoir mal.
De toute façon, Naples a communiqué en disant voilà, il a 3 ans de contrat, il est encore chez nous, on veut pas le transférer.
120 millions.
Mais. Ah ben non, mais moi je suis d'accord avec toi.
Ouais, c'est pas toi qui l'aimais, Manu.
Ça n'a rien à voir, Jean-Louis. Mais entre
les droits télé étaient en baisse, je croyais.
Entre Miko Tadze et Kvaratskhelia. Mais franchement, je préfère tous les jours Miko Tadze dans ce qu'il apporte. Ouais. Le geste du buteur, c'est un vrai buteur. S'il signe à Monaco fait vraiment un gros coup là.
Tu parles, c'est pas Miko Tadze?
Ah oui,
c'est ce que disait Manu tout à l'heure. La compo du Portugal est officielle. Jeannot Wessegué nous appelle à Leipzig.
Avec Diogo Costa dans les buts. La défense à 3 avec une surprise. Pep, Ruben Diaz et Cancelo. Puisque Nuno Mendes sera dans le couloir gauche, le Parisien. Diogo Dalot à droite. Un autre Parisien, Vitinha, au milieu de terrain. Avec Bruno Fernandes et Bernardo Silva. Et c'est finalement Leao qui va accompagner Cristiano Ronaldo. Donc dans le 3-4-1-2. Choisi par Roberto Martinez.
Merci Jeannot. La dernière minute du temps additionnel de Turquie, Géorgie, peut-être une dernière attaque pour les Géorgiens, Arnaud Valadon.
2-1 pour la Turquie et ils vont peut-être un coup franc qui sera peut-être une bonne occasion sur le côté gauche. Kvaratskhelia qui s'est précipité, on est à 35 mètres plutôt proche de la ligne de touche, mais ce coup de pied arrêté, il y a même le gardien qui est monté, Mamardashvili, pour essayer peut-être de réaliser d'exploit, d'aller accrocher ce point du match nul pour le premier match de l'histoire de la Géorgie à l'Euro, entraîné par Willy Sagnol. C'est parti pour Kvaratskhelia après du point de pénalty. Oh, c'est repoussé par le gardien, ça va revenir. Oh, la déviation de Aykaydin, le défenseur central turc, alors que Khochorashvili, ou c'était Zizivadze qui a tenté la reprise au point de pénalty puissante, et là le défenseur turc qui a vraiment sauvé la patrie d'une tête, hein.
Incroyable, le sacrifice là pour aller la sauver. Quelle occasion pour égaliser pour la Géorgie de Willy Sagnol.
C'est le poteau qui sauve.
Poteau d'abord, poteau et d'abord, ensuite le défenseur.
Poteau d'abord, ensuite le ballon revient à hauteur du point de pénalty. Il y a un corner. Kvaratskhelia, on a dépassé les 6 minutes de temps additionnel. 2-1 pour la Turquie. C'est frappé par la tête qui est pour un joueur géorgien. Re-corner. Re-corner, c'est un Turc au premier poteau. Va falloir lever un peu plus son ballon pour Kvaratskhelia. Le gardien Mamardashvili est toujours monté. 2-1 pour la Turquie. C'est vraiment la dernière action de cette partie. C'est boxe. C'est par le gardien, ce corner de Kvaratskhelia. L'arbitre de la rencontre a toujours pas sifflé. Il n'y a plus de gardien. Et les Turcs qui vont se rouler, qui vont se ruer vers le but. Va y avoir un but vide pour les Turcs avec cette réalisation. Et ça fait 3-1. Est-ce que c'est Zeki Selik qui a marqué pour les Turcs? Non, c'est Arthur Koglou, l'ailier qui est rentré. C'est dur pour les Géorgiens qui ont cru jusqu'au bout. Et la Turquie qui va remporter son premier match d'ouverture dans une compétition. Ils n'avaient jamais gagné leur premier match à l'Euro. Victoire 3-1 à venir.
Bon, mauvaise opération à la différence de but du coup pour les Géorgiens.
Quel match
qui vont perdre 3-1 finalement. On s'est régalé, hein, Manu.
Ouais, franchement,
ouais, mais quand
un match
tu sais
incroyable.
Que ça peut se jouer, vu que c'est très serré au goal average, je pense que les Géorgiens font une grosse connerie.
Ouais, mais c'est l'enthousiasme. Voilà, ils ont voulu aller chercher cette égalisation. Ils ont une occasion incroyable.
Ah, demain, ne
arrête de calculer.
Demain, ne ratez pas Rotten sans flamme sur le banc des accusés. C'est Willy Sagnol.
Ah, voilà.
On n'a pas peur des mots.
Attaque pas mon pote.
Bon, ton pote, c'est pas ce que tu me disais.
Ah, c'est le bien aussi. Hein,
c'est mon pote.
Oui, c'est notre pote à nous tous. On a bossé avec lui. Oh. Allez, merci messieurs. Merci Manu Jérôme.
Personne ne le calculait.
Mais arrête, n'importe quoi.